squire, squire.
Eh bien oui, en effet, c'est bien Radio Sud en direct de la cuisine, où nous aurons la possibilité d'entendre tout à l'heure un certain nombre d'interventions, entre autres concernant Thomas Owen, qui apparemment a vécu ici dans le village de la cuisine, et donc sur 105 FM, à partir de 16h30, vous aurez l'occasion d'entendre une petite cérémonie où il y aura des intervenants de l'Académie du Livre du Luxembourg belge qui viendront évoquer la vie de Thomas Owen. Tout ça en direct du studio mobile de Radio Sud.
Kulumaru baru seye,
kaka mokote Oya kosali sayo kore kaete
Voilà, et alors un tout grand merci à Bertrand hein, qui nous conseille par téléphone parce que c'est un petit peu la première fois que je fais ce studio mobile, et aussi un grand merci à Pierrot qui lui nous écoute de son lit d'hôpital, parce que sinon je pense que c'est lui qui aurait été présent ici à la cuisine. Donc dans quelques minutes, peut-être une petite demi-heure, nous aurons l'occasion d'entendre les interventions de personnes qui se sont réunies dans la salle de village de la cuisine, donc ici à Florentville. Parce que c'est le moment de commémorer un petit peu le travail de Thomas Owen, un écrivain quand même de haut niveau de notre Belgique francophone, de renommée internationale, et donc nous aurons l'occasion d'entendre un petit peu ce en quoi le village de la cuisine l'a inspiré d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a résidé, il y a aussi eu des séjours de vacances, mais moi je connais pas très très bien les choses, c'est les personnes qui sont là aujourd'hui qui auront l'occasion de nous expliquer tout ça. Et on continue un petit peu en musique, bien sûr, sur Radio Sud 105 FM.
Mangalo Polini, wale injuri lo, nyamienti misoma, di nyamienta famaso, awandi o wandi ble ble, adi alieno di alie ble ble, aijo ijo ble ble. Eme baba la o, apata pata poinu. Emianola, Emianola. Thank you.
alegria faz você cantar. Motivo de alegria faz você sorrir. Motivo de alegria faz você viver. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Graças a Deus clareou, tudo isso é motivo de alegria. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Graças a Deus clareou, tudo isso é motivo de alegria. É por isso que a gente tá contente, vamos nessa alegremente até o dia amanhecer. Curtindo um samba boa, a gente não tem briga, foge logo da intriga, preferindo nem saber. Levando a vida onde a vida leva, tocando lá no fundo de um coração. Segura no pandeiro, afina essa viola, moleque bom de bola, sai da marcação. Chama a galera pra curtir o nosso samba, samba de primeira. Não fica aí parado, não marca bobeira. Melhor remédio é fugir da solidão. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Graças a Deus clareou, tudo isso é motivo de alegria. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Graças a Deus clareou, tudo isso é motivo de alegria. É por isso que a gente tá contente, vamos nessa alegremente até o dia amanhecer. Curtindo um samba boa, a gente não tem briga, foge logo da intriga, preferindo nem saber. Levando a vida onde a vida leva, tocando lá no fundo de um coração. Segura no pandeiro, afina essa viola, moleque bom de bola, foge dessa marcação. É isso aí. Chama a galera pra curtir o nosso samba, samba, samba de primeira. Não fica aí parado, não marca bobeira. Melhor remédio é fugir da solidão. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Graças a Deus clareou, tudo isso é motivo de alegria. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Lá no alto da montanha clareou, tudo isso é motivo de alegria.
Pois é.
Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Graças a Deus clareou, tudo isso é motivo de alegria. Graças a Deus clareou, já vem surgindo um novo dia. Lá no alto da montanha clareou, tudo isso é motivo de alegria.
Alemão.
Cacharã, cacharu.
Ai, lá, menino, que é
o pé. Cacharu.
Soco. Nede, bico, manaia.
Cacharã,
cacharu. Imae.
Parame.
Jamana, cacolé.
Soco. No.
E nipora, tu, mana.
Cacharã, cacharu.
Nibia.
Tesso. Soco.
Segue,
Lunda,
é com a cabunda, né, palmo?
Sile, sexo,
so, para que para pica?
Onhorno,
naia polo de noma,
lunda, lunda,
né, aquila, o chamo minha,
sigre,
angapamba,
sexo,
cambolo de noma,
paro,
naia polo de noma,
no,
herpa de viso,
tetera, gumieta, tetero, cotia.
Chacharagumieta, chacharu, curtia. Só que está aí dizendo, mudo está sentindo.
Chacharagumieta, chacharu, curtia. Parramira, mori, parola de honore. Só que está aí dizendo, mudo está sentindo.
Chacharagumieta, chacharu, curtia. Vivo de lume, padre, que soro de me madre. Só que está aí dizendo, mudo está sentindo.
Chacharagumieta, chacharu, curtia. Lu saccio como ti chiami, lo sai como mi chiamo. Parramira, amore, parola di onore, so cosa stai dicendo, non sta scendendo,
chiacchierà con mia
ca chiacchierò cutia.
Lontano mi nai a chiri, lontana e a partire, segreto di nome padri, tesoro di me madri. So tu stai dicendo, non tu sta sentendo,
chiacchierà con mia ca chiacchierò cutia. Ogni giorno a tornare, amore, non mi scordare, lontano mi nai a chiri, lontano e a partire. Lo saccio come ti chiami, lo sai come mi chiamo, segreto di lume padri, tesoro di me madri. Parlami d'amore, parola di onore, so tu stai dicendo, non tu stai sentendo. Chiacchierà con mia ca chiacchierò cutia, chiacchierà con mia ca chiacchierò cutia. Tesoro di la mia vita, solo di lume e cuore, solo di la mia vita, tesoro di lume e cuore, solo di la mia vita, tesoro di lume e cuore, solo di la mia vita, solo di lume e cuore, tesoro di la mia vita, solo di lume e cuore, solo di la mia vita, tesoro di lume e cuore, solo di la mia vita, solo di lume e cuore, solo di la mia vita, tesoro di lume e cuore.
I just want to talk to you so bad. Every word you sing is so truthful, a proof of the magic in the makings of you. Now come talk to me, so I can speak with you. Please, please speak with me. But notice all you had to say and give. Yet, nobody is hearing you the way you should be heard. Nobody is listening to you the way you should be listened to. And nobody is feeling you the way you should be felt. I saw it. I felt it.
Thank you.
Restez bien branchés sur Radio Sud. Nous sommes dans le studio mobile à La Cuisine et tout bientôt nous aurons l'occasion d'entendre quelques échanges en direct de ce petit village de la commune de Florentville. C'est un petit peu une facilité que nous donne notre studio mobile, c'est d'être présent quand il se passe quelque chose. Et donc effectivement, si chez vous il y a des petites activités, des petits moments qui doivent être mis en évidence, qui sont des moments culturels ou des moments conviviaux importants pour le village ou pour la région, eh bien n'hésitez pas à appeler Radio Sud et nous nous ferons un plaisir de voir comment nous pouvons être avec vous.
Restaurant, I'll stay home in bed. Radio Sud, 105 FM. 105 FM.
Donc, ben voilà, comme annoncé, nous sommes à la cuisine, et à la salle de la cuisine, il y a un certain nombre de personnes qui sont réunies. Nous aurons l'occasion d'entendre, j'espère que ça va se passer convenablement, parce que sur le plan technique, ben, on a les micros dans la salle, et puis nous sommes dans le studio mobile, et normalement, on devrait avoir l'occasion d'entendre, j'entends déjà le bruit de la salle, donc c'est que c'est déjà bien vivant. Ah, mais, et donc je pense que c'est Lichfield qui prendra la parole en premier pour expliquer le contexte et assurer la bienvenue. Le public s'installe petit à petit. Et donc on va essayer de jongler entre ces moments-là et des moments de musique. Et donc nous ne nous étonnons pas de la façon dont les choses vont se passer, puisque, comme je vous le dis, c'est un événement public, et donc on est dans l'ambiance, et on va se plonger en tant qu'auditeur dans l'ensemble, dans l'ambiance de cette fin d'après-midi. Et donc il y aura peut-être de temps en temps des moments de blanc, et des moments où vous vous poserez des questions, mais je pense que les réponses viendront ensuite petit à petit. Donc je vais me rendre moi-même dans la salle, et donc je vais être privé de toute écoute, mais on suppose que tout va bien fonctionner et que les choses pourront se passer de façon à ce que vous, auditeurs, puissiez, auditrices et auditeurs, puissiez entrer dans l'événement qui est en train de se dérouler dans cette salle de la cuisine. Voilà. On s'installe tout doucement, je ne sais pas ce qu'on entend, mais en même temps, je vais faire des photos, vous voyez, donc, comme ça. Hein. Elles ne sont pas sur le... Il y a M. Lambeau, l'ancien commissaire général au tourisme, qui est présent. Et alors, bien sûr, le bourgmestre. On met des chaises encore pour les personnes qui arrivent. Oui.
Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc ici nous sommes pour parler de Thomas Owen. Donc Thomas Owen, de son vrai nom Gérald Berthaud, qui est né le 22 juillet 1910 à Louvain. Si son père est avocat et enseignait dans un collège de la ville, ses racines sont provinciales. Son grand-père est originaire d'Atrival, près de Saint-Hubert, et sa grand-mère est de notre beau village de Chassepierre, sur les bords de l'Assemois. Et c'est donc à la cuisine que, durant de nombreuses villégiatures, Gérald Berthaud viendra passer ses vacances. Après des études de droit qu'il ponctue en 1933, il épousera Juliette Hardis, avec qui il aura deux enfants. Mobilisé en 1939 à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, il échappera de peu à la déportation consécutive à la capitulation du gouvernement belge. C'est sa rencontre avec le grand romancier Stanislas André Stiman qui servira de déclencheur à sa carrière d'écrivain. De 1941 à 1943, il publiera un grand nombre de nouvelles et de romans policiers. Ce n'est qu'alors qu'il se tournera vers la littérature française en faisant paraître Les Chemins étranges qui lui amènera la reconnaissance du grand public. En 1976, il est élu à l'Académie royale de la langue et de littérature française de Belgique. Il termine sa vie à Bruxelles où il décède en 2002 à l'âge de 91 ans. C'est avec honneur et intérêt de mieux connaître la vie de ce formidable auteur belge qui a donc bien connu notre belle région que la ville de Florentville soutient l'initiative de ce jour, porté par le comité et le syndicat d'initiative de la cuisine, à qui je confie dès à présent la parole pour de plus amples commentaires. Merci de votre attention.
Merci Madame Lechevine, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, chers amis, amis de l'Ardenne, puisque c'est l'intitulé de notre association et de notre revue. Celui qui va prendre principalement la parole, c'est Paul Mathieu, ici présent. C'est le secrétaire perpétuel de l'Académie luxembourgeoise, un auteur bien connu dans la province. Et avant de lui céder la parole, je voulais, en quelques instants, présenter cette association et surtout ce qui est son principal objet, sa revue. Ça s'appelle « Les Amis de l'Ardenne ». Ça a un certain nombre d'années d'existence, mais en fait, c'est une très vieille histoire, puisque nous appartenons à une chaîne de revues qui se sont succédées depuis le milieu de l'entre-deux-guerres. Donc, c'est dire que nous sommes des anciens dans le domaine de la littérature et de la culture transrégionale. Parce que les Amis de l'Ardenne, même si c'est une association qui a son siège à Charleville-Mézières et que de nombreuses activités y ont lieu, c'est une association et une revue qui se veulent transfrontalières. Donc nous nous intéressons autant à la partie belge qu'à la partie française de l'Ardenne, et même selon nos statuts modifiés, nous nous intéressons aux Ardennes luxembourgeoises du Grand-Duché et à l'Eifel en Allemagne. Ceci étant, nous n'avons pas, puisque nous sommes en Gaume, une conception étroite de l'Ardenne. Nous ne sommes pas des Ardennais impérialistes non plus, mais nous sommes des amis, des passionnés de cette vaste région que l'on peut appeler le massif Ardennes-Eifel ou les quatre Ardennes, c'est-à-dire qui pour nous, du côté belge, englobe tout ce qu'on appelle la Haute-Belgique. Donc nous nous intéressons autant à la Famenne et à la Gaume qu'à l'Ardenne. On a une conception assez large. Je tiens d'ailleurs à signaler que voilà quelques années, nous avions déjà consacré un numéro à la Gaume, le numéro 29. C'est d'ailleurs un numéro qui, quoique ami de l'Ardenne, avait connu le succès puisque c'est un numéro épuisé. C'est dire si nous avions déjà été acceptés, quoique ardennais, lors de cette initiative. Donc nous avons une conception assez large et nous traitons dans chaque numéro, ou presque tous les numéros, de deux parties. Il y a une partie qui est un dossier, plus ou moins important, cette fois-ci très important, et qui peut être consacré à un écrivain, et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est Thomas Owen. Et puis nous avons une autre partie dans la revue qu'on appelle Varia, et on trouve des choses, comme le nom l'indique, diverses. Ça peut être des articles d'érudition, ça peut être des nouvelles, ça peut être de la poésie, ce sont des sujets plus divers, d'où ce nom de Varia. Et donc ainsi, tous les trimestres, nous sommes présents. Le prochain numéro se sera consacré à quelqu'un dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il a été assez connu à une certaine époque, et c'était un religieux qui sentait le soufre. C'est à Bonaventure Feuillin, le franciscain de Réunion, et nous lui consacrons un numéro, mais sur ses côtés un peu obscurs. Donc, puisqu'il sent le soufre, nous allons creuser ce soufre pour voir de quoi il retourne. Voilà donc ce que nous sommes, toute une bande sympathique, je pense, d'amis, de gens qui sont passionnés par cette grande Ardenne que j'évoquais, qui sont passionnés, bien sûr, par la culture, par la littérature, et si nous nous trouvons ici, c'est parce que nous essayons chaque fois de raccrocher notre numéro à un terroir. Puisque nous parlions de Thomas Owen, et que Thomas Owen avait ses grands-parents qui étaient à la cuisine, chez lesquels il venait en vacances, nous nous sommes dit, on va donc présenter ce nouveau numéro à la cuisine, à Florentville. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Le secrétaire de la revue m'a dit d'attirer votre attention sur le fait que pour ceux qui le souhaiteraient, le numéro est vendu pour le moment à un prix promotionnel. Donc vous ferez une affaire si vous en achetez l'un ou l'autre. Diffuser la publication, ça nous fait toujours plaisir parce que je dois vous dire qu'à part un petit subside que nous accorde la ville de Charleville-Mézières, où nous avons donc notre siège, nous n'avons aucune aide ni subside. Donc nous devons trouver tous nos moyens par nous-mêmes et nous ne nous ouvrons même pas à la publicité. Peut-être qu'on devra le faire parce qu'il faut quand même toujours trouver des moyens pour faire vivre cette aventure. Voilà, je termine par ces soucis matériels et je passe maintenant la parole à Paul pour qu'il nous présente Thomas Owen.
Ah. Bien, on me signale que le... Ça va, on entend. On me signale que le fils de Thomas Owen est à 2 km, donc, mais c'est pas grave, j'ai quand même commencé, je vous le présenterai quand il arrivera. Donc bonsoir à tout le monde, hein, et merci de nous recevoir ici pour cette présentation. Merci d'abord à l'administration communale de Florentville, donc qui nous a beaucoup aidés pour cette présentation, au syndicat d'initiative de la cuisine. Merci bien entendu aux amis de l'Ardenne qui m'ont donné la possibilité de coordonner ce numéro spécial Thomas Owen. Merci à Jean-Gérald Berthaud, je remercie d'avance, hein, il nous a beaucoup aidé aussi parce qu'il nous a prêté beaucoup de documents, beaucoup de photos que vous pourrez découvrir dans la revue. D'autres personnes nous ont prêté des photos, hein, des gens comme Mireille Tabé, Jean-Luc Geoffroy, Marc Coachbeur qui nous a aussi ouvert les archives du musée de la littérature à Bruxelles, et l'Académie luxembourgeoise évidemment avec laquelle nous travaillons pour cette revue. Nous avons travaillé pour cette revue. Alors bon, présenter Thomas Owen, ben, Madame les chemins de la culture l'a déjà fait. Hein. Thomas Owen est né, elle vous l'a rappelé, en 1910 à Louvain. Un peu par hasard, hein, c'est parce que sa mère était de Louvain et que la naissance a eu lieu là chez les grands-parents maternels, alors pour le coup. Et lui a fait toute sa vie à Bruxelles et à Schaerbeek. Hein. Sauf que son père était avocat à Bruxelles et son père était originaire de la cuisine. Son père est né à la cuisine et ses grands-parents paternels, alors pour le coup, habitaient toujours la cuisine quand il est né en 1910. En fait, il s'appelait pas du tout Thomas Owen, il s'appelait Gérald Berthaud. Hein, et le grand-père Berthaud est venu s'installer à la cuisine dans les années 1870 parce qu'il travaillait à la construction de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Arlon et il a rencontré une fille de la cuisine et c'est comme ça que la famille est venue s'installer ici. Et le grand-père venait d'Atrival, donc dans l'Ardenne belge. Donc voilà le lien qui est fait avec les Ardennes au sens large. Donc voilà, il est né à Bruxelles, enfin à Louvain, il a habité Bruxelles, mais très jeune, il revenait périodiquement ici à la cuisine, chez ses grands-parents. Il y a passé, on l'a rappelé tout à l'heure, pratiquement toutes ses vacances d'été, au moins jusqu'au décès de sa grand-mère dans les années, fin des années 20. Et on m'a même dit, mais ça mériterait d'être vérifié, qu'il aurait été pendant quelques mois ou quelques semaines, en tout cas, ici, à l'école, à la cuisine. Vous savez comme ça se fait parfois, hein. Donc, et alors si... Ben voilà. Voilà, donc ça se confirme. Alors ça tombe bien puisqu'on est dans l'ancienne école. Donc ça aurait été ici qu'il a un petit peu fréquenté l'école. Cela dit, bon, il a fait toutes ses études à Bruxelles, hein, essentiellement. Alors dès cette époque-là, dès l'époque où il est à l'école à Bruxelles, dans l'école secondaire à Bruxelles, il s'intéresse à la littérature, il commence à écrire des petits contes. Et le premier conte qu'il a écrit, ça s'appelait « Le taureau de Phalaris ». Et c'est un conte dans lequel il parle d'un tyran d'Agrigente, qui pour faire exécuter les personnes qu'il mettait à mort, les faisait enfermer dans un taureau d'acier qu'on chauffait à blanc, vous imaginez un petit peu. Donc on n'est pas encore dans la littérature fantastique, mais enfin on est quand même déjà dans un domaine assez lugubre. Alors après ça, il va passer à l'université, il va faire des études de droit, on l'a rappelé tout à l'heure aussi, et pendant ses études de droit, il va continuer à s'occuper de littérature, il va même diriger une revue qui s'appelait « La parole universitaire », qui va d'ailleurs lui survivre après son passage à l'université, je veux dire. Hein. Donc c'est quelque chose qui va exister pendant plusieurs années. Et alors là, il va avoir l'occasion d'accueillir un conte de Jean Rey, qui à l'époque était un des grands noms de la littérature fantastique. Hein. Et de cette collaboration est née une amitié qui va durer jusqu'à la mort de Jean Rey. Donc là, c'est quelque chose d'important pour comprendre la suite. Alors, après ses études, ben, il va se marier, on l'a dit, hein, et il va, sur le plan professionnel, devenir secrétaire des meuneries de Trois-Fontaines à Villefort. Il va y rester toute sa vie, alors il va rester dans le domaine de la meunerie toute sa vie, et il va gravir les échelons et terminera sa carrière comme président directeur général de l'Union des meuneries européennes. Donc sur le plan professionnel, quelqu'un qui a une carrière évidemment bien remplie. Là, sous le nom évidemment de Gérald Berthaud. Il s'est marié en 1933. À partir de cette époque-là, il commence aussi à donner de façon très régulière des petits articles, alors plus du tout dans le domaine fantastique, mais sur la peinture et sur les arts. Il fait des petits billets de présentation d'artistes, de peintres, de sculpteurs, d'expositions, de galeries bruxelloises. D'abord pour un journal qui s'appelle Le XXe siècle, qui est dirigé par William Hugeux, c'est lui qui l'a contacté pour qu'il fasse ses petits articles. Et ces articles, il les signe sous le nom de Stéphane Rey. Hein, donc vous voyez déjà une deuxième identité. Alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement il aura trois identités, mais en plus ces trois identités, elles partent dans des directions complètement différentes. Lui s'appelle Gérald Berthaud, c'est un nom bien français ou bien belge, comme on voudra. Stéphane Rey, il y a un côté presque espagnol, il a toujours dit que c'est un nom qu'il avait repiqué à une bouteille d'une marque de Porto. Bon, allez savoir, ou portugais. Et puis alors après ça, il va devenir Thomas Owen, là c'est un pseudonyme plutôt anglo-saxon, donc une troisième facette. Alors ces articles sur les peintres, il va en faire vraiment beaucoup, presque 10 000, dit-on. Le musée de la littérature en conserve plus de 2 000. Ce sont généralement des petits articles, une demi-page, mais enfin c'est évidemment quelque chose de très riche parce qu'il a touché à peu près à tous les peintres qu'on pouvait croiser en Belgique à l'époque où il a travaillé, donc entre 1933 et son décès en 2002. Donc vous imaginez, hein, c'est quand même une carrière de pratiquement 70 ans. On a essayé de regarder, hein, quand on a fait la revue, s'il n'avait pas aussi traité de certains peintres des Ardennes françaises, Bonaventure Feulien par exemple, mais visiblement non. C'est d'ailleurs assez étrange parce que Feulien, par hasard, il est né à Scarbeck, donc on retombe. Bon, ça c'est petite parenthèse. Donc voilà le deuxième volet, si vous voulez, de la carrière de Thomas Owen. Et puis alors, la littérature fantastique, alors ça s'est fait un peu plus tard. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est Stanislas André Stemann, le père de Stéphane Stemann, qui, pendant la guerre, lui a proposé d'écrire un roman policier, des romans policiers, pour une série qu'on mettait en place à cette époque-là, une façon de s'évader un petit peu. Et il a commencé par un premier roman policier, un deuxième, et à partir du troisième, il est signé d'abord Stéphane Rey, et alors à partir du troisième, il a repris, si vous voulez, le nom d'un de ses personnages, Thomas Owen, parce qu'il trouvait que ça faisait bien en pleine guerre, un nom un peu anglo-saxon, c'était. Et toute la suite a été signée donc sous le pseudonyme Thomas Owen. Donc voilà l'origine du troisième pseudonyme. Alors, des romans policiers, il en fait pendant la guerre. Après la guerre, ça marche un peu moins bien. Et c'est là qu'il va tout doucement bifurquer vers la littérature fantastique. Pendant la guerre, dans ses romans policiers, il y avait tout de même déjà certains éléments fantastiques dans certaines histoires. De temps en temps, il y a des choses un petit peu inexplicables. Et après la guerre, là, il va vraiment obliquer vers le fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition du fantastique ? Ben, le fantastique, c'est généralement une histoire qui se passe dans un milieu tout à fait ordinaire, tout à fait vraisemblable, tout à fait crédible. Et même plus il est ordinaire, mieux c'est. Et puis subitement, dans ce milieu tout à fait normal, va se produire un événement inexplicable, un événement apparaître à un être un petit peu bizarre, et puis les choses vont commencer à déraper. Et comme on le dit souvent, la différence entre le fantastique et le roman policier, c'est que dans le roman policier, à la dernière page, vous avez la solution. Dans le récit fantastique, on arrive à la dernière page, et on n'a toujours pas de solution. Ou alors on a une solution qui marche sur une patte, on se demande si on ne s'est pas trompé quelque part, s'il n'y a pas quelque chose. Il y a quand même toujours quelque chose qui échappe, pour faire simple. Alors, comme je vous l'ai dit, à partir de l'après-guerre, il va commencer à écrire surtout des récits fantastiques. Et alors là, il va un petit peu abandonner le roman, et il va surtout écrire des nouvelles, des récits relativement brefs. Alors, il y en a vraiment beaucoup. La première série, c'était Cérémonial Nocturne, et puis il y aura La Cave aux Crapauds, il y aura Pitié pour les Ombres, etc. Et alors, toutes ces séries de nouvelles vont être reprises plusieurs fois dans des éditions successives. Alors la bibliothèque de Florentville, que je remercie aussi, a eu la bonne idée ici de vous présenter quelques-unes de ces éditions successives. Les premières éditions, bon, se font après-guerre dans des collections qui n'existent plus. Dans les années 60, il va publier surtout aux éditions Marabout, vous connaissez peut-être. Hein. Alors les éditions Marabout avaient eu cette bonne idée de mettre sur pied une collection exclusivement tournée vers la littérature fantastique. Et donc il y a une grande partie des créations de Thomas Owen qui se retrouve dans cette collection Marabout Fantastique. Alors après ça, ben, ça va être repris, notamment par les éditions Espace Nord, les éditions Labor, ici chez Lefranc, les collections complètes, la Renaissance du Livre, etc. Donc tout ça, évidemment, continue jusqu'à son décès, on vous l'a dit tout à l'heure, en 2002. Alors en ce qui concerne les thèmes de ces nouvelles, ben, très souvent, on a des histoires qui ont trait à l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez lui. Parfois aussi, ce sont des nouvelles qui ont des cadres vraiment très particuliers. Par exemple, il y a beaucoup de nouvelles qui se passent dans les pays de l'Est. Ça, c'est le résultat de son métier de directeur de meunerie. Si vous voyez, il a eu l'occasion souvent d'aller faire des affaires par là, il s'en est souvent.